Oui, pas de message aujourd'hui sur le répondeur de la base si j'y suis. Pour des raisons personnelles, familiales, je suis pas à l'antenne, mais je suis à Pavillon-sous-Bois, pour tout dire. Et je dis ça parce que ça amène la balade d'aujourd'hui, une balade dans les rues de cette petite ville de la banlieue du 93, du 93. On disait pas comme ça à l'époque. Vous allez voir.
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse fille.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est là que ma mère dort, derrière des volets fermés. Une chambre. C'est là que mon père est mort, et c'est là que je suis né. Dans cette chambre, mes frères, mes sœurs, sont nés là. C'était comme ça. Derrière ces volets, un pavillon quelconque, d'une banlieue quelconque. L'amour, les rêves, la mort, la souffrance et la vie. Les choses de la vie. Le décor quelconque d'un roman familial sans plus d'importance que n'importe quel autre. Petite banlieue, petit pavillon de banlieue, les autres venaient de loin, de haut, et moi de là, de rien, économiquement faible. C'est là que je suis parti faire mon premier voyage. C'est le tout premier voyage que j'ai eu envie de refaire et que je vais refaire aujourd'hui. Un voyage que chacun a fait dans sa vie. Une première fois, un premier voyage, le chemin de l'école. Cette vie donc, derrière ses volets, et puis le pavillon, et puis le perron, et puis le jardin, et puis le cerisier, et puis le mur, et puis le grillage, et le lilas, et après, c'est la porte. La porte en fer de la rue, et puis la rue, et puis dehors, et puis le trottoir, et puis les voisins, les autres, derrière le mur, derrière le grillage, les autres vies, et puis le coin de la rue, l'épicerie, un haut lieu, et puis c'est tout. Presque. Le monde s'arrête ici, au coin de la rue. Voilà l'univers. Voilà ce qu'il y a à imaginer. Un monde limité, heureux, comme le ventre d'une mère. Bien sûr, il y a de temps à autre des excursions, à l'église, au marché, au mariage à Jacqueline et Roger. Mais un jour, aventure. Un jour, en route pour l'école, la grande, l'arrachée. Un jour, le premier voyage qu'on fait seul dans la vie, le chemin de l'école. Le tout premier, c'est pas vraiment la liberté, mais c'est la laisse qui s'allonge, vertige. Soudain, le monde s'agrandit. Vaste, le monde, et pour ainsi dire, presque infini. J'ai eu envie de refaire ce que à peu près tout le monde peut refaire un jour dans sa vie. Le chemin de l'école. C'était, il y a des années, je commence à mentir sur combien. C'était où? Je dirais pas exactement. C'est un chemin commun, familier, on l'a tous fait. C'est pour éveiller en vous des rêveries, des nostalgies, je sais pas au juste quoi, des bonheurs peut-être. Jamais je n'ai refait ce chemin et je ne sais pas si mon école, au bout, existe toujours. Je sais vraiment pas. J'ai emmené Zoé, Varié, avec moi pour pas avoir l'air idiot d'un ancien enfant qui parle tout seul dans une rue de banlieue avec un micro. Alors on part, mais je vous préviens, je vous dirai pas tout. Je m'en garde pour moi. Il n'y a pas prescription pour tout dans la vie. Alors, tablier, goûter, plumier, castagne, et puis, c'est ça, je dirais pas vraiment tout. Tiens, je vois le chat. C'est le chat de mon père, là, qui est là. C'est quoi, regarde. Et donc voilà, alors la véranda, le petit perron en ciment, tout est petit parce que c'est les petites gens, c'est les gens de peu ici. Et puis il y a la porte, tout ça, ça a beaucoup d'importance parce qu'on passe. On passe de la maison à ce jardin qui est un lieu entre les deux, entre dedans et dehors, entre eux et nous. Là on passe de la... Et puis là tout d'un coup c'est la rue. Parce que longtemps l'espace, tu vois, la vie se limite là, l'épicerie. Ça s'appelait VG, l'épicerie. Hein, c'est les coopérateurs, c'était les coopérateurs, après ça a été VG. Puis après c'est devenu Madame Ham. Bon, voilà, chez la mère Ham, Madame Ham. Bon, donc là, tu vois, ça fait 50 mètres. L'espace s'arrêtait ici, et puis là-bas, chez Dalen. Tu vois, le terrain qui était là, c'était le plombard qui s'appelait Dalen. Bon, il y a le gueulard, le marchand de légumes. Il y a les filles fourmis. Bon, c'est déjà plus loin. Là, Dalen, le plombard, qui faisait de la peinture.
Il peignait du bois tout en noir, il disait que c'était la nuit, puis il peignait des machins tout en blanc, il disait que c'était de la neige. Il était très drôle. C'est lui qui a installé le chauffe-eau. Chez nous, c'est des grands moments, le chauffe-eau, parce qu'évidemment, quand j'étais loin, il n'y avait pas tout ça, tout petit. Et puis là, il y a Rousseau. Là, ce pavillon, le pavetard en meulière, la vraie meulière, quoi. Hein. Rousseau, lui, il avait un atelier qui voit là-bas derrière, et il faisait des rails de chemin de fer là-dedans, et il y avait le téléphone. On entendait le téléphone sonner. Voilà, pour Rousseau, il était en bleu avec sa glapette. Il y avait une grosse femme, des lunettes. Là, il n'y avait rien. C'était un terrain vague super, là. Et il y avait le père Gergaud, qui était un type bizarre, qui avait une moto. Il avait une bru qui était très très rondelette, qui avait des nichons, des choses comme ça, comme les. Et ça nous attirait beaucoup. Mais lui aussi, je crois bien qu'il avait une histoire comme ça. Il avait des cassis dans son jardin. C'était un très joli jardin. On allait pour les cassis. Il y avait des choses un petit peu floues avec sa belle fille. Enfin bon, là, ça, cet immeuble là de 2 étages. J'oublie. Là-haut, en tout cas, c'est la famille Roussa, monsieur et madame Roussa qui vivaient là. Madame Roussa, elle faisait des pyjamas. Et son mari était très gentil, il ne faisait pas de son vélo. Et là, c'est là, je me rappelle pas, je devrais connaître qu'eux. J'ai oublié leur nom, Gilot. Il s'appelait Gilot, voilà. Parce que derrière, dans la cour, il y a un magnifique cerisier. Là, la dame qui est en train de, qui nous a vus, qui demande ce qu'on fait. C'était déjà un peu bizarre, cette maison. C'était la maison Mills. Monsieur Mills, tu vois, dans le garage que tu vois là, pendant des années, il a restauré une voiture. Il était garagiste.
La même.
Pendant 10 années, une traction. Et un jour, il a sorti la traction. C'était la traction d'attraction. Il est parti avec. Il a laissé sa femme et sa môme. Alors là, il y avait Monsieur Hulot. Ça, c'était un soleil, ce Monsieur Hulot. Et Madame Hulot, elle faisait de la couture, elle était petite main. Ma mère faisait de la confection, tandis que Madame Hulot faisait de la confection, tu vois. C'est déjà plus luxe. Petite main, haute couture. Et lui, Hulot, il était installateur, il pététait. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Hulot? Je pétète. Il adorait dire ça. Il avait une fille charmante. Là, c'est vraiment trop intime, là. Je peux pas trop raconter, mais... Il y a encore des histoires qui ne sont pas réglées. On avait 7 ans, quoi. On avait 7 ans. Là, cette maison qui se présente à ta vue, c'est Ardel, le Coropier. Mon père l'appelait le Coropier.
Pourquoi?
Parce qu'il était manucure-pédicure. Ardel. Et ça, tu vois, là, tu as une vue imprenable sur le jardin où j'ai passé mon enfance. Alors, ce que tu vois plus, c'est le cerisier. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de cerisier. C'était l'attraction du jardin. Mais ça a été remplacé avantageusement par cette table que je vois là.
Et vous mangez dans le jardin?
On mangeait dans le jardin, on sortait la table. On avait une grosse table là. Tu sais ce qu'on appelle du Henri III. On sortait la table Henri III par la fenêtre là. Et puis là-dessous, c'était la tonnelle, on faisait. Mais là, tout s'est passé dans ce jardin. Tout s'est passé. Toute notre vie s'est passée dans ce jardin. Ça fait quoi? Ça fait 25 mètres. Avec ce mur de briques creuses, j'adore ce mur de briques creuses. Toujours, il fallait pas taper au ballon parce qu'on le faisait écrouler. Alors quand tu vois bien que c'est pas nous. On a la preuve maintenant que c'est pas nous. Là aussi, il fallait pas taper sur ce mur-là au ballon parce qu'on allait faire tomber la maison. D'après le propriétaire qui habitait derrière, monsieur Mirabel. D'après lui, qui avait sa petite tonnelle, sa femme qui s'appelait Jeanne, lui s'appelait Julien, elle Jeanne, et la sœur moustachue, Juliette, qui est morte derrière ce mur là-bas. On a passé notre vie là, toute notre vie. Les communions, les mariages. Mais là, moi je vois ma maison de l'extérieur, mais évidemment que je la voyais de l'autre côté, d'accord? Et là, si tu vois, regarde, si je me mets de côté maintenant, si je me mets comme j'étais quand j'étais le môme, tu vois ce passage de rue, comme ça, c'est un travelling. Comment c'est un théâtre permanent, quoi. Et là, passait. Là, il y a un gars qui est. Il y a un monsieur qui est mort, là. Le gars qui vendait les tissus au marché. Il poussait sa petite carriole, il est mort devant chez nous.
Dans la rue?
Ouais. Mon père a pris un tissu qui était dans sa petite carriole. Il vendait des tissus.
Ouais.
Hein, le gars?
Il l'a enroulé dedans.
Voilà. Il était là sur ce trottoir. On voyait passer d'autres choses, on voyait passer des flics. Dont un des flics qui a dénoncé un de mes frères qui est parti en camp à cause de lui. On voyait...
Qui habite toujours là?
Je sais pas. Il est peut-être mort quand même, j'espère. Il y avait l'office, le père Colson, le père à mon pote Colson, le ferrailleur. Il était toujours bourré, toujours sous. Il était vachement gentil, alors nous le laissait passer parce qu'on jouait la balle au Pristo, là, tu vois, là. On jouait la balle au Pristo. Il n'y avait pas de bagnole, aucune bagnole. Il n'y avait que des vélos de temps en temps. Une bagnole de temps en temps. Et nous, quand il y avait le père Colson. Ça, c'était bizarre, ce type qui titubait comme ça. Qui passait en titubant. Alors, le plus beau, c'était évidemment les enterrements. C'était les vrais enterrements avec cheval, et corbillard, et plus ou moins fleuri, le crottin. Alors, il fallait se précipiter sur le crottin. Tous les membres du quartier se précipitaient sur le crottin pour mettre dans les pots de fleurs, dans le jardin. Ça, ça se castagnait après. Mais bon, il fallait enlever ton béret et faire ton signe de croix. T'avais intérêt, sinon tu te prenais une paire de tartes, vite fait, même si ma mère voyait qu'on n'avait pas fait notre signe de croix. Et puis alors après, il y avait les gens qui pleuraient. Nous, on voyait ça, toi, à travers les lilas, là. Et c'était génial, parce que on voyait d'abord les veuves, là, elles étaient vachement éplorées. On voyait même pas leur tête tellement... Hein, c'était épais, le voile. Et après, on voyait des yeux rougis et tout. C'était quand même quelque chose. Puis après, ils s'en foutaient de plus en plus. Tu vois? Au fur et à mesure. À la fin, c'était d'une gaieté. Le deuil se faisait sous nos yeux. En quelques minutes, le deuil était fait. En quelques minutes, la vie reprenait ses droits. Je me souviens du marchand de peau de lapin, le gars du peau de lapin.
Qui passait là?
Qui ramassait peau de lapin, il ramassait les peaux de lapin, parce qu'on avait des lapins. Ce qui s'est passé, c'est que là derrière, dans ma maison, là, il y avait des lapins.
Des poules?
Des poules, bien sûr, il y avait des poules, des lapins. Et le dimanche, toi, ça c'est la porte de la cave. Et là, mon père, le dimanche, hop, on se faisait un lapin. On avait un tuyau de plomb, on attachait le lapin par la patte, à l'extérieur de la porte, hop, en haut. Et on attrapait le lapin et tac, un coup de tuyau de plomb sur la gueule. Et on arrachait l'œil du lapin. Un lapin au sang. Et ça tombait dans un bol, le sang du lapin pissé dans un bol. Moi, je tenais le bol, mon frangin mettait un peu de vinaigre. J'avais mis un petit peu de vinaigre avec des échalotes et tout, hop, pour le sang. Puis après, on dépouillait le lapin. Mon père dépouillait le lapin. Et la peau du lapin, on mettait de la paille dans la peau du lapin. Alors, ou bien on fouillait la peau du lapin à lapin peau, ou bien ma mère nous faisait des moufles. Ou bien des semelles pour mettre dans nos godasses qu'on nous donnait à l'école parce qu'on était des économiquement faibles, donc on nous donnait des pompes à l'école. Ou bien elle nous faisait des moufles en peau de lapin, qui avait cette particularité, c'était de perdre leurs poils. Mais comme c'était à l'intérieur, tu vois, il fallait remettre les poils dans les peaux de lapin. Et voilà avec quoi je partais à l'école, donc quand il faisait froid, un peu comme aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. C'était assez heureux, finalement, la vie. C'était pas mal, quoi. Je me souviens quand on... Des fois, je parlais de Monsieur Hulot tout à l'heure. J'espère qu'il existe toujours. Et qu'il nous emmenait à l'école, celui qui pététait. Il était merveilleux, ce bonhomme. Il avait un triporteur, les pététés. Pour aller mettre ses machins téléphoniques. Et des fois, il mettait toute la nichée de mômes dans son... Tu vois, dans le triporteur devant, comme ça. Et il nous emmenait, il était avec Liliane, sa fille, mon frangin, moi. Mais alors c'était sympa parce qu'on était, tu vois, secoués, alors on fallait tenir le couvercle, et, comme ça. Et alors c'était vachement gai, quoi, il nous larguait là, il était pété la vie, ce bonhomme. Il adorait sa femme, je me souviens comment il plottait sa femme, c'était un bonheur, Madame Hulot. Des fois, moi, le samedi, c'était mon frangin qui m'emmenait mon grand frère, Guy, qui nous emmenait en moto à l'école. Alors là, s'il avait une moto bécane, il a eu une terreau, il aimait les motos.
Alors le truc, c'est que le samedi, ils étaient à déjeuner, tu vois, les parents. Alors ils étaient bien installés à table, en train de bien bouffer, bien picoler et tout, puis il fallait nous emmener à l'école. Alors ça l'emmerdait, mais il le faisait quand même, des fois. Alors nous, on insistait, parce qu'on voulait arriver à l'école sur le temps de sable de la moto, c'était quand même une bonne journée. C'était quand même une bonne journée. J'adorais ça. Tiens, quand le bruit de sa moto. Lui, il avait carrément là, il avait encore la serviette de table autour du cou. T'es chez un peu les voisins, là. Alors ça, c'est des voisins bien aimés qui habitaient là. C'est monsieur et madame Ventura qui habitaient là longtemps dans la baraque en bois, la baraque des Espagnols. Et le père Ventura, c'était un héros de la guerre d'Espagne. Il faisait du carrelage, évidemment, comme tous les espingouins du coin. Il y avait d'autres espingouins qui étaient là pour la même raison. Et sa femme était une merveille. C'était une merveille. Elle foutait absolument rien. Elle était là, tu vois, sous ce pône. Alors, il n'y a plus de... Putain, c'est encore un poignet. Oui, oui, c'est un poirier, ça. Et bien, elle était là sous le poirier, dans sa chaise longue, avec sa fille qui s'appelait Dolores. J'invente rien. Et ces deux femmes se marraient. Elles étaient aussi grosses l'une que l'autre. C'est des gens heureux qui se bidonnaient. Elles étaient là, c'est que les deux se bidonnaient. Voilà, avec le père Ventura qui rentre en vélo, le maçon. Et là, il y a un gars, tu vois, au 16, là, de cette rue. Je fais gaffe à pas trop dire où c'est, papa. Il y avait un gars qui était un collabo. Là, qui était un collabo. Là, il était alcoolo. Et il est mort une nuit, s'il avait confondu le vin blanc et le javel sous l'évier. Personne n'a voulu venir le ramasser, c'est mon père qui est venu le... Et là, sur cette maison-là, pendant des années de mon enfant, toi, je passais là pour aller à l'école, voilà. Et là, sur ces murs-là, il n'y avait pas le petit grillage, il y avait des croix gammées. C'était une maison de collabo. Pendant des années, peut-être, je sais pas, jusqu'en 55. Au moins, il y a eu ces croix gammées. À chaque fois que le gars effaçait sa croix gammée, quelqu'un venait la remettre. Mais il y avait les bouteilles de lait. Et le matin, mon père, son bonheur, c'était de se lever le premier. Il adorait se lever tôt. C'est un homme qui aimait, tu sais, le avant que ça commence. Et il allait chercher sa bouteille de lait. Voilà. Et puis il en mettait une vide. C'est des petites choses. Des petites choses des gens de peu. Voilà, là on part vraiment pour l'école. Il y avait un peintre en bâtiment.
Là, dans celle-là.
Eh, un italien. Et c'était très joli. C'était toujours très... Il repeignait toujours sa maison. Là, il en est resté quelque chose. Il vient peindre. Oui, il est brique comme ça. C'était un italien. Il était un vrai peintre, hein, tu vois, le genre qui fait du faux bois, du faux marbre et tout, qui s'y connaît, quoi. Il avait une grosse femme.
Voilà. Et ce monsieur-là.
Ben oui, je crois qu'ils s'appelaient Rousseau, ces gens-là, mais je sais pas s'ils s'appellent. Oui, il y a un monsieur qui est en train de... Oui, c'était un facteur qui habitait ici. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous vous appelez monsieur Rousseau?
Ah non.
Non. Vous savez qu'il y a un monsieur Rousseau qui habitait là, autrefois?
Oui, pourquoi?
Non, comme ça, parce que je l'ai connu. Oui. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Voilà, bah c'était des copains à moi quand j'étais gosse. Alors ça, j'avais un copain qui s'appelait... Oh, ça me revient, il s'appelait Coé. Coé, là, dans cette maison-là. Parce que les gens, ils avaient des jardins. Le terrain, on allait au jardin. Alors, ils avaient un petit vélo. Et puis derrière, il y avait un petit... une petite remorque à deux roues, ou à une roue. Et on emmenait les outils, la bêche, le râteau, le plantoir et tout. L'arrosoir. Des fois, on emmenait même de l'eau. Et puis, on allait au jardin, on allait s'éclater au jardin. Les hommes faisaient les légumes.
Et les femmes, les fleurs.
Voilà. Alors, ça, c'est ça, on commence à être déjà loin. Là, c'est la rue Jean-Baptiste Clément, auteur du temps des cerises. Ça va être marqué quelque part. Et ça, ce petit bout de terrain, cette maison, désolante, de laideur. C'était quand j'étais môme, un terrain magnifique, c'était une petite forêt-vière qui était là. On passait là, tu vois. Là, on pouvait couper, tu vois, la pointe dans cette rue, on pouvait l'éviter de faire le détour. Et on passait là. Mais c'était formidable, il y avait des grillages, il faut laisser passer là, c'est l'installation frigorifique air froid qui passe, c'est quand même pas n'importe quoi. Il faut laisser la place. C'était une urgence. Et donc là on passait, tu vois, on traversait. Alors des fois on se paumait un petit peu, on allait faire quelques bagarres, quelques castagnes, quelques supposées cochonneries avec des filles. Il y en avait quand même, mais on se marrait quand même. Les filles étaient pas. Et puis, au fond de ce truc, habitait un poète qui s'appelait Primaire.
Au fond de là, de ce terrain-là.
Voilà. Là-bas au coin, sous les branches. Il y avait une méchante cagna où habitait un bonhomme qui vendait des cravates et des pyjamas sur les marchés dans un parapluie. Il s'appelait Primaire. Il avait une balle dans le poumon de Primaire qu'il avait ramassé dans je ne sais quelle guerre. C'est quelque... Il sifflait comme ça et il récitait des poésies qu'il écrivait lui-même à la main.
Et c'était des jolies.
Ouais, il nous adorait. Oui, tu parles. Et il m'a donné le goût de la poésie, Primaire. Et alors, si tu veux, de la poésie, mais peut-être pas des poètes, parce que il avait donc ce bruit de poumon qui sifflait. Et puis, à cause de ça, sans doute, le pauvre bonhomme, il bavait un petit peu. Enfin, il avait un petit peu de, tu vois, enfin, bon, c'était pas un spectacle bien. Et ça l'empêchait pas, pourtant, d'avoir une très jolie fille. C'est pour ça que, des fois, mais ça, quand on allait à l'école, on allait à l'école. Faut quand même pas. Mais des fois, il y avait pas que l'école. Et donc, il y avait la cagnotte de Primaire, hein, qui était toujours, hein, prêt à nous sauter dessus pour nous réciter des poésies, qu'il récitait, par ailleurs, à Montmartre, je crois. Il disait ça. Et je sais pas ce qu'il est devenu, mais il était bien vieux. Ce qui était très frappant, c'était cette balle qu'il avait dans le poumon. Là, il y avait une ferme, tu vois, au coin de la rue. Là, je fais vraiment, c'est vrai.
Une vraie ferme,
oui. Mauvais... Tu vois? La maison avec des volets, de tôle bleue pâle, là. Oui. C'était une ferme. On allait chercher le lait. On voit bien la forme de la cour de la ferme. Tu vois?
Là.
Voilà, ça, c'est une ferme. Et il y a un gars qui est en train de réparer sa sono, c'est la banlieue d'aujourd'hui.
Par où c'est, là?
C'est tout droit. On continue. Faut pas se tromper. Et si vous avez eu une école, ben vous pouvez probablement faire la même chose. Un jour, vous faites comme moi, vous partez de la maison de votre enfance, si elle existe toujours, et puis vous faites le chemin, et peut-être que vous arriverez à votre école, si elle existe toujours. Voilà le chemin que j'ai eu envie de faire avec Zoé, varié. Mais je sais pas si l'école existe, vraiment pas. Là, c'était chez Desmarais, c'était mon pote Desmarais. Il était blond. Desmarais, il était bizarrement blond. Très, très, très blond. Très jolie maman.
Pourquoi bizarrement blond?
Trop blond, tu sais. Blond, presque blanc. Bon. Est-ce qu'il y a un bon copain? Il avait un vélo. C'était un fou de vélo, Desmarais. On était tous des fous de vélo, hein. Le vélo, la boxe et l'accordéon. T'as vu, je t'ai pas menti, c'est bien allé, Jean-Baptiste Clément. Ah, c'est loin, l'école, hein. Tu vas voir, c'est vachement loin, hein. Donc là, voilà, on a fait le tour de chez Primaire. Et là, il y avait un gars qui vulcanisait les pneus. C'est-à-dire que là, dans ce garage que tu vois là, où il y a une pub coincée dans la boîte à lettres, il y avait un petit bonhomme là sur le trottoir. Ça sentait bon d'ailleurs. Je croyais pas que j'ai oublié les odeurs. Ça sentait le pneu. Et ce gars, il avait des pneus toute taille sur ce trottoir. Et avec un méchant appareillage, il refaisait des dessins dans les pneus. Tu vois, c'était son boulot.
Quand les pneus étaient lisses.
Ouais, et ben lui a creusé dedans. Tu vois, c'était son boulot. Il avait un chien très méchant qui m'avait attaqué une fois. Je me souviens, j'avais toujours très peur. Là, c'était des pavés. Tu vois, on a mis du bitume sur les pavés pour rendre plus agréable le confort des automobilistes. Mais sur les trottoirs, c'était du mâche-fer, en fait. Et alors, c'était une drôle de combine parce que c'était des ordures brûlées. On brûlait des ordures puis on les mettait sur les trottoirs. Et alors, nous, on marchait là-dedans. Mais en espérant que ça allait se tasser. Et alors, le long de cette allée, cette rue-là, ça nous conduit tout droit. J'ai pas voulu te le dire tout de suite, pour te garder la surprise, au marché de la Bazoche. Le marché de la Bazoche. Le marché de la Bazoche, et quand j'étais môme, tu vois, il y avait le grenetier, le comte, par exemple, qui passait avec son cheval blanc et sa charrette et qui allait au marché. Et moi, je connaissais le grenetier, la grenetière, Madame le comte, et je montais dans la carriole des fois. Ça, j'étais tout le monde, mais c'est vrai. Je montais dans la carriole. Et elle était aidée au marché par Madame Garniche, qui était un personnage étonnant. C'est la femme que j'ai... qui puait le plus au monde que j'ai pu rencontrer de ma vie. Elle aidait le grenetier au marché. Et c'était un des personnages... J'ai adoré cette bonne femme. Elle vivait dans un tas d'ordures, là-bas vers la route nationale. Et elle était cernée de caisses en bois de poissons, tu vois, des vieilles caisses en bois qui avaient contenu du poisson.
C'était sa maison?
Ouais. Elle habitait. Alors ma mère qui a toujours pris les chiens garés comme ça en protection, recevait chez nous Madame Garniche, qui venait se chauffer au coin du poêle.
Et tu te rappelles de son odeur?
Ah oui, bah oui, ouais, c'était une puanteur. Alors là, bon. Là, c'est le... Là, on est au marché de la Bazoche. Alors, c'était le terrain de mon père. Mon père, il arrivait... Samedi, c'était casquette. Que lundi, c'était... Toute la semaine, c'était béret. Mais samedi, c'était casquette. Et là, il venait au Mercado avec son sac à provisions roulé sous le bras quand il arrivait.
Ouais.
Et c'était son terrain. Enfin, le marché, c'était son terrain. Là, il connaissait tout le monde. Il fallait pas l'arnaquer, il obtenait des... Il adorait, c'était gai comme tout, c'était le bonheur, le marché. Alors là, bon, là on rejoint des trucs très terribles, c'est l'école des filles de la rue Robillard. Là, il y avait le sexe féminin qui braillait derrière ces grilles. Tu vois, c'était étonnant, parce que dès que j'arrivais par là, j'entendais les filles brailler. Il y en avait qui me regardait et que je regardais, quoi.
Est-ce que toi, des fois, tu passais devant l'école et puis tu traînais un peu pour en voir une sortie?
Je traînais pas du tout, je marchais le plus vite possible tellement j'étais effrayé. Mais il y avait des fois des regards qui s'accrochaient. Et puis le lendemain, ben, on se revoyait, quoi. Et puis ça pouvait comme ça durer pendant des semaines où on se regardait tous les jours. Elle est quand même pas mal, cette école de filles.
Elle
a quand même... On dirait vraiment un dessin de Tardi, quoi. Le meilleur pour peindre ça, c'est Tardi. Attends, on est en train de se tromper de trottoir, je suis en train de prendre le trottoir des filles, dis donc. Tu vois, c'est... Tu me fais... Ça, c'est le trottoir des filles. Ah là, c'est le trottoir des garçons. Il était plus large que ça, d'ailleurs, ou j'étais plus petit. C'est peut-être ça. Là, c'est une infirmière. Elle avait une petite boutique où il y trouvait tout. Les cahiers, les plumes sergent-major, les règles, les crayons, les bonbons, les buvards. Et là, alors, c'est une maison, je sais pas ce que les gens faisaient, ça devait être des négociants en vin ou en charbon, mais je me souviens qu'il y avait cette maison-là, ça nous fascinait toujours parce qu'il y a toujours de très belles voitures. Et je me souviens d'une... Le gars, il avait une vedette, une Ford, avec une calandre en forme d'aile d'avion. Alors ça nous étonnait. Ah oui, mais ça, c'est marrant comme les... Tu te rends compte, 40 ans après, il y a encore ces... Là, c'était un endroit comme ça. Un peu boisé. Regarde la petite maison là-bas, dans le fond. C'est vachement mignon. Hein. gens qui viennent dans la banlieue. Hein. C'est marrant, il y a une dame qui nous double, si ça se trouve. Elle passait sur le trottoir quand j'étais môme. Mais dis-moi, je m'aperçois que c'était drôlement long le chemin de mon école. Hein.
Pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'une fois comme ça, de temps en temps, on se prendrait pas pour des personnages importants et qu'on ferait pas ce que j'essaye de faire là, c'est-à-dire le chemin de l'école? 40 ans plus tard, je l'ai dit, je suis trahi. Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Presque tout le monde, je pense, peut le faire. On continue? Ça vous amuse? Moi, ça m'amuse beaucoup, ça me remue, je vous dis pas tout. Hein. Je vous dis certainement pas tout et je sais toujours pas s'il existe toujours cette école.
À l'école. C'est beau. Hein. Ah ouais. Alors là, par ici, dans une de ces maisons, peut-être bien celle-ci, habitaient monsieur et madame Rognard, qui était le directeur et la directrice de mon école. Et c'est madame Rognard, la sainte madame Rognard, qui m'a appris à écrire. Voilà mon école. Ville des pavillons sous bois, groupe Anatole France, école des garçons. Non, je crois qu'ils sont en travaux. On va essayer par l'autre porte. La ville. Mais elle marche toujours cette école, on a l'impression que c'est une école morte. Construction et réhabilitation du groupe scolaire Fischer et Pierre Brossolette. Montant des travaux à 28 millions de francs. Ça veut dire que mon école est en travaux?
Oui.
Bonjour madame, c'est pour la radio. Et là, je suis en train de faire un reportage parce que j'étais dans cette école quand j'étais enfant.
Oui, vous tombez mal, il n'y a personne.
Il n'y a personne? Elle est fermée l'école?
Ben, disons qu'ils sont en travaux.
Oui.
Et ils sont en train de ragrandir l'école.
Oui.
Et qu'aujourd'hui, il n'y a personne.
Ouais. C'est pas possible d'aller faire un tout petit tour? Ça vous gêne pas si je vais faire un tour dans l'école?
Non, mais vous ne verrez pas grand-chose. Hein.
Oui, mais ça m'intéresse d'aller voir un petit peu.
Ah ben alors, allez-y.
Ça fait 40 ans.
Vous n'en avez rien.
Bon, on va faire un tour. Merci.
Un tour, où il y a un couloir.
Oui, mais je me souviendrai des lieux. Alors, on entre à l'école, je rentre à l'école. Ah, voilà, c'est plus là. Parce que c'est en travaux, on est en train d'agrandir. Le même carrelage. C'est le même carrelage. Je vais te faire voir le bureau du directeur de monsieur Rognard, c'est là. Alors là, je te raconte pas. Là, c'était la terreur. Et là, il y a une. Et là, c'était la cutie. Ah ouais, c'est l'infirmerie. Et c'est toujours, hein, c'est toujours un médicament, ça ne se prend pas à la légère. La chasse aux poux est ouverte. Dormir, c'est vivre aussi. Des conseils bien sentis. Là, on entre dans le préau.
Qui n'a pas changé.
Qui n'a absolument pas changé, avec les machins pour faire la gym, les barres parallèles, le truc là où on se faisait torturer pour faire la gymnastique corrective, parce que on avait tous des scolioses. Là-bas, c'est ben voilà, c'est là qu'avait lieu la chorale. Là, c'était la cantine. Là, il y avait la classe des attardés.
La porte,
ouais, la porte, ça c'était la classe des attardés. C'était monsieur Brudier ou Broudier, j'ai jamais réussi à savoir, qui s'occupait des attardés. Le plus frappant, c'est ce carrelage, cette frise, des carrelages vert et blanc. Mais je sais qu'on entrait en classe par ici, par ces couloirs qu'on va prendre. Ah.
C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est là que j'ai appris à écrire. En fait, la première fois que je suis venu dans cette école, j'avais 6 ans. Amis, comme mes mignons mangés. Pourquoi Pipon, petit, appelle copain. Chat, chien, chuchote, brioche. Rue, talus, salut, crochu, barbu. Sors, comme, encore, et fort, robe. Mon ami, mes amis, la pomme, les pommes. Voilà. Les plantes vertes, les petites tables. Les dessins. Ah, la pendule, c'est la même pendule. C'est vrai que les mots m'ont toujours les yeux fixés sur la pendule. Ça, c'était la classe de Madame Rognard. L'escalier. La cour de récré. Le couloir vers la cour de récré. L'escalier de l'étage. Là, c'était les grands. Ça, c'est les tables, oui. Nous, on avait des tables, alors là, bien plus antique que ça, c'était déjà des tubes et des bois. Nous, c'était des tables en bois qu'on nettoyait. Une fois par an, il y avait la journée où on nettoyait sa table. Il fallait amener du papier de verre et de la cire et aussi des morceaux de verre. Des morceaux de verre tassés de vitre pour gratter la table. Et une fois par an, ça faisait une poussière de tous les diables. Le maître, Monsieur Chaudron, Monsieur Billonnet, Monsieur Dumas, Madame Quiriot, Monsieur Ferdinand, et j'en oublie, eux-mêmes se mettaient en bras de chemise et se nettoyaient leur bureau. Et là, il y avait les petits encriers en faïence. Il y avait la dame de service qui, de temps en temps, passait avec sa bouteille, ostensiblement, et son petit chiffon qui remplissait les encriers d'encre noire pour ce qui nous concerne. Et il y avait aussi la rouge pour... On sait quoi le rouge. L'essentiel, c'est le tablier gris ou tablier noir. J'ai porté le tablier noir qui est attaché un peu sur les côtés à la rue, c'est comme ça. Avec un liseré bleu ou rouge, tout petit. Et la croix. On avait la croix. Si on était allait bien travailler, on avait la croix. Et on avait la boîte à bon point, le sac de billes, le petit sac avec le goûter. Le goûter de 10 heures, le goûter de 4 heures. Pour ceux qui restaient à l'étude. Alors bon, c'était un morceau de pain avec un morceau de chocolat dedans. Pain et chocolat. Un petit peu fondu. C'était bien quand on pouvait passer ça sur la cuisinière, c'est une cuisinière à charbon. On passait ça un petit peu au four de la cuisinière. C'était un peu mou là-dedans, c'était génial. C'était le panard. Mais je me souviens de cette classe, c'est dans celle-ci qu'il y avait la distribution. C'était après la guerre. Et il y avait beaucoup de pauvreté. Les Trente Glorieuses, ça a commencé plus tard, à produire des effets. Et donc, la caisse des écoles, ou peut-être la mairie, se chargeait de distribuer des colis aux mômes défavorisés, dont j'étais. Et c'est vraiment des humiliations terribles dans la vie quand on nous distribue. Je crois que c'est porté d'un bon, je sais pas quoi, j'ai plus d'avis là-dessus. Mais, la distribution des godasses, c'était particulièrement dur. J'ai gardé des trucs, enfin bon. J'en faisais ce qu'il pouvait, hein, je pense. J'espère. Là, on est... C'est bien, hein, les instituts. Le Rhône des Fers vers la Camargue. On s'intéresse à ce qui se passe. Sortie interdite. C'est en travaux, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas le droit, mais... Ouais. Bon, c'est vraiment interdit, je vois les câbles qui sont à l'extérieur. On va aller dans la cour de récré. Voilà la cour de récré. Voilà la cloche. Là-bas, il y avait les cabinets. C'était un haut lieu, évidemment, de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, pour se mettre à l'abri quand il flottait, mais il y avait le préau aussi. C'est là que tout se passait, tout s'apprenait, tout se disait, tout s'échangeait. Ça correspond au marché pour les parents du chiotte de l'école. C'est-à-dire que les garçons, il y avait la cour des grands et la cour des petits. Entre les deux, l'instit qui allait et venait, sans sifflet à la main, sans béret sur la tête, son manteau en hiver. Bon, je peux dire de quoi je peux parler, les débits, quand on jouait aux billes, que c'était des grands moments, les batailles à cheval, enfin tous les gosses connaissent tout ça. Sauf peut-être que beaucoup ont oublié que, comme c'était après la guerre, au lieu de jouer aux gendarmes et aux voleurs, on jouait aux FFI et aux nazis. Alors c'était au hasard, on tombait dans le nazi ou le FFI. Et encore une fois, les mômes avaient tout inventé, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il se trouve qu'on est FFI, il se trouve qu'on est nazi, et on sait pas très bien pourquoi, on a toujours pas très bien compris pourquoi on se trouvait du bon ou du mauvais côté. Et voilà, si les platanes sont absolument d'époque, j'en suis sûr. Si on pouvait s'approcher des platanes, on verrait des trucs gravés, les mômes. Les instits se battaient toujours pour que les mômes ne creusent pas, ne gravent pas le bois des arbres. Le sifflet, coup de sifflet du maître. Tout le monde en rang. On s'aligne. On tend le bras comme ça. Il faut tendre le bras comme ça. Garde à vous. On ne moufte pas dans les rangs, on a sa place dans les rangs, les petits devant, les grands derrière, et on rentre dans l'école en rang, classe par classe, et on s'arrête au coin du couloir, on tourne, etc. C'est un peu militaire. On rentre pas comme ça en paquet, débraillé. Il faut être habillé beau. Enfin, il faut être propre. Sinon, il y a des remontrances, sinon il y a des mots qu'on envoie aux parents. Les riches avaient des tabliers chics et nous, on avait des tabliers que me fabriquait ma mère. Et ça, c'était pire que tout parce que c'était pas, on voulait des vrais tabliers comme les autres. Pauvre mère, ça faisait de cuisiner nos tabliers, mais c'était pas, nous, on n'était pas contents parce que c'était pas les vrais. C'était pas les vrais comme les autres. Mais enfin, il y avait plus pauvres que nous. De toute façon, on trouve toujours. Si vous avez besoin de trouver plus pauvres que vous, on a ce qu'il faut.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet et Zoé Varier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Sophie Moreno et Patrick Henry. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello, chef de répondeur, Christophe Imbert. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 ou par mail daniel.mermet@radiofrance.com. Enfin, toutes nos amitiés à monsieur François Kiefer. Un rendez-vous à noter ce soir, projection du film Autocritique 68-98, réalisé par Marie-Claire Schaffer, et en sa présence au Lou Pascalou à Paris dans le 20e, et c'est à 20h.
Je voudrais faire le tour du monde. Par les Indes, le Pacifique. Le Bosphore et les Amériques. Retrouver quelques personnages morts à Je veux mettre un terme aux rumeurs. Un tour de l'enfer.